qu'on enchaîne avec notre table ronde numéro 3, consacrée à l'islam des jeunes, deuxième génération, troisième génération, qui est animée par Madame Rania Hanafi, qui est enseignante-chercheuse à l'URMIS et à l'Université de Nice et de la Côte d'Azur, qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre et de religion et de jeunesse. Voilà. Merci beaucoup et bonne table ronde.
Merci. Merci à toutes et à tous. Merci en tout cas à Juliette Gagnonier, Mohamed Timera et puis à leur équipe de cette organisation qui est extraordinaire. Et c'est un plaisir pour moi du coup de me replonger dans ces questions avec vous. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer, enfin en tout cas cette table ronde, et autour de la jeunesse, de la transmission, de l'héritage. Un ensemble de questions sont ressorties au cours de ces différents échanges. Et donc je vais présenter brièvement donc les personnes présentes. Je commencerai déjà par Rania Aboudou, qui est ancienne première dame de l'île de Grande Comore, et fondatrice, une des fondatrices en tout cas de la Faïka PACA, qui nous parlera davantage de son expérience et qui se présentera un peu mieux effectivement à ce sujet. Nous avons un étudiant parmi nous en sciences de l'éducation, Kajura Baradji, qui est en sciences de l'éducation. Il a vécu 4 ans au Mali également, période durant laquelle il a appris l'arabe et le Coran et les sciences religieuses, et il pourra là aussi nous parler de son expérience et en particulier aussi de sa mobilisation ici en France au sein de différentes associations dont EMF, les étudiants musulmans de France, et bien sûr dans d'autres espaces, un think tank aussi. Bon, Kajura donc se présentera. Nous avons également Nassourdine Edari, qui a grandi dans le quartier du Panier à Marseille, donc qui est porteur également de fortes valeurs et d'éthique religieuse, qui donc a travaillé très tôt pour aider sa famille. Je lis un petit peu la présentation, mais je crois que le mieux ce sera effectivement que vous vous présentiez, fassiez état de vos différentes expériences en étant passé bien sûr par Sciences Po, Aix, et surtout à travers vos mobilisations à la fois politiques, sociales et culturelles, et puis culturelles bien entendu en tant qu'imam. Donc là pareil, je vous laisserai vous présenter un peu mieux à ce sujet. Nous avons également Awan Dongo, donc titulaire d'un master en sciences politiques spécialisé dans la lutte contre les discriminations. Awa est engagé depuis des années dans des projets et associations qui cherchent à faire entendre la voix des jeunes et lutter contre les stéréotypes et les discriminations. Awa pourra aussi nous parler un peu plus en détail de ses différentes expériences, et en particulier aussi de ses expériences à travers l'expression artistique qu'elle mobilise, en particulier le slam et la chanson. Et puis nous avons Bakary Sako, qui est né en France, 19e arrondissement, chef d'entreprise, entrepreneur social. Et il est également fondateur de la maison d'édition Face Cachée, l'auteur d'un ouvrage également Je suis en 2015, dans lequel il revient sur ses identités multiples. Et là, il pourra effectivement développer plus dans le détail cet aspect. Et puis, en particulier, ses mobilisations sur les questions de l'économie sociale et solidaire. Mais je vous laisserai là aussi vous présenter. On démarre tout de suite avec notre première intervenante, et qui pourra effectivement s'exprimer et se présenter. Hein. Madame Rania Aboudou, je vous en prie, vous avez la parole.
Merci. Je suis comorienne et élevée en France. Donc je fais partie de la deuxième génération. J'ai fait des études commerciales, j'ai fait l'école de commerce. J'ai élevé 6 enfants en France, notamment des filles. Donc c'est surtout sur cette expérience que je veux étaler mon intervention. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure du genre, et surtout au niveau de africain, disons africain noir et musulman et femme, parce que ça fait trois paliers de discrimination qu'on subit ici en France. Bon, moi-même en tant que mère, chef de famille, je l'ai vécu. Mes enfants aussi. J'ai eu la chance de faire en sorte que mes six enfants, mes six filles, ont fait des formations et ont tous des masters. L'une est doctorante, etc., etc. Mais n'empêche que elles ne travaillent pas. Elles ont des problèmes. Celles qui travaillent ont des problèmes au niveau relationnel, disons, par rapport à leur couleur, par rapport à tout ça, en termes de charge de travail, en termes de ségrégation au niveau du boulot. Donc aujourd'hui, je crains pour mes petits-enfants, surtout ma petite-fille qui a 5 ans aujourd'hui, mais qui déjà à l'école est traumatisée. Parce qu'on le traite, on dit « Oh, toi, ta mère est noire, sors de là, machin, on lui tire les cheveux parce que ses cheveux ne sont pas assez raides. » Et ça me rappelle les mêmes problématiques que j'ai vécues quand la mère était aux mêmes classes, c'est-à-dire à la maternelle, et que j'étais obligée de partir avec tous mes enfants aux Comores pour qu'ils aillent vivre pendant 4 ans aux Comores pour se sentir humain et pas un petit chien qu'on peut tirer les cheveux ou on peut repousser comme ça à l'école. Et ça leur a donné la force de pouvoir revenir et continuer à faire leurs études en sachant qu'ils ont d'autres possibilités de vie que d'être maltraités. Donc c'est cet aspect, ce témoignage que je veux apporter, que je pense ma fille l'a vécu, ma petite fille est en train de la vivre, et mes enfants sont en train de penser partir de la France par rapport à ça. Donc ça devient plutôt là où il y a la problématique, je pense, de la situation, c'est l'intégration au niveau française des Français. Parce que moi-même, mes enfants, nous sommes Français. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait des traitements différents pour... Donc cette situation est très grave et plus... on va aller vers l'avenir et plus on va être nombreux, non seulement en tant qu'Africains, mais en tant que métissés, en tant que tous les aspects des minorités qui sont ici vont devenir majoritaires à un moment ou à un autre. Donc il faut poser le problème réellement et trouver des solutions avant que ça n'explose, ça ne devienne quelque chose de conflictuel. Bon, ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce qu'on le vit mal, nos enfants le vivent mal, ce n'est plus possible. Donc ça, c'est cet aspect-là que je voulais porter. Sinon, j'étais disponible aussi pour être disons, témoin historique de l'évolution de la situation. Parce qu'on a parlé de Majlis ici, sans savoir comment le Majlis a été importé ici en France. Le Majlis a été importé ici en France à partir du fait que les vieux ne voulaient plus nous voir organiser des bals pour faire de levée d'argent parce qu'ils ne se sentaient pas aller dans les bals, ni machin, c'était pas leur genre. Alors ils se sont dit, nous on va faire un majlis et vous allez voir, le majlis va apporter de l'argent. Et ils ont réussi. Et donc les jeunes ont suivi et on a continué à faire des majlis. Mais arrivé à un moment, le jeune avait besoin d'un aspect plutôt culturel. Donc au lieu de revenir au bal, ils sont revenus au Touareg. C'est ce qui existe maintenant dans tous les coins de la France. On voit des Touaregs qui s'organisent pour délever des fonds. Et ces levées de fonds, que ce soit Majlis, que ce soit Touareg, ce n'est pas uniquement pour l'aspect religieux. Ce n'est pas uniquement pour des mosquées. Et même, je dirais, il y a très peu d'impact vers les mosquées. C'est plutôt pour des projets de développement dans le pays d'origine. Des routes, des écoles, des hôpitaux, des... Voilà, c'est ça, ça finance... Ça, c'est Majlis là. Et le terme Majlis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici en France, n'a pas la même valeur qu'aux Comores. Aux Comores, les Majlis sont destinés au grand mariage. Quand quelqu'un se grand marie, c'est la cérémonie religieuse qui rassemble tous les hommes. Et pour terminer sur ça, le Majlis ici en France, C'est vrai que visiblement on pense que c'est les hommes, mais réellement c'est hommes et femmes, et c'est surtout les femmes, parce que c'est les femmes qui s'occupent du repas et qui sont présentes. Ils sont une majorité, même s'ils sont derrière, mais ils sont présentes. Et moi, j'essaie d'amener un peu dans la culture comorienne que les femmes et les hommes puissent avoir, au lieu de, même pas la mixité d'être en, mais au moins d'avoir un rang pour les femmes, un rang pour les hommes, au même structure, dès le devant jusqu'à derrière, parce que c'est pas normal qu'on soit toujours derrière. Voilà, merci. Merci.
Alors, vous soulevez beaucoup, beaucoup de points sur lesquels on pourra revenir et s'interroger également sur la place de la jeunesse dans le cadre justement de ces majlis. Comment, parce qu'on parle là des adultes mais, et les jeunes dans cette question de la transmission. On reviendra sur cet aspect, mais d'abord sur les discriminations que vous évoquez. Et du coup, je m'adresserai directement à Nassourdine et Dari. Qu'est-ce qu'il en est, vous, au cours de votre mobilisation, à travers votre propre expérience, sur ces questions, puisque c'est le cœur de votre mobilisation?
Déjà, je voulais remercier les organisateurs, les organisatrices de ce colloque, qui est fort intéressant. J'aimerais revenir tout d'abord sur l'identité comorienne, qui est une identité assez complexe, en fait, qui est fondamentalement arabe, en fait, et qui est socialement africaine. Et c'est vrai que quand les Comoriens sont venus massivement à Marseille, dans les années 70-80, ils ont participé à l'architecture de l'islam de Marseille, en construisant les premières mosquées. Je pense à la mosquée de la Porte d'Aix, qui est l'une des plus anciennes de Marseille, mais aussi la mosquée Guichard, qui est une mosquée exclusivement comorienne. Il y a eu, dès les premiers moments de l'insertion française, une volonté de se regrouper et de faire corps ensemble et d'essayer à travers la mosquée d'enseigner et l'islam et aussi la langue comorienne et les traditions comoriennes. Et c'est vrai que pour un comorien, un maghrébin n'est pas un arabe. Donc en fait, un comorien n'a pas de complexe. Cette question-là a été beaucoup soulevée hier. Les Arabes que nous connaissons, c'est foncièrement des Yéménites, ou des gens des Arabes Unis, ou d'Arabie Saoudite, et c'est ce que nous appelons Arabes. Mais les Maghrébins, pour nous, étaient des Berbères. Ils n'étaient pas des Arabes. Donc en fait, dans la conception et dans le rapport que l'on a eu avec ces Maghrébins-là, c'était un rapport qui était tout à fait normal, et il s'est posé en fait à Marseille, dans la dynamique dans les années 80, lorsque l'on a commencé à faire des mosquées, le personnel religieux était comorien en fait. Parce que les imams formés, ou ceux qui étaient formés, revenaient d'Égypte, ou d'Arabie Saoudite, ou du Yémen, ou des Comores, ou de Zanzibar aussi, et étaient ceux et celles qui étaient formés. Et je dis bien ceux et celles, parce que les femmes occupent aussi dans la transmission religieuse une place capitale. Cette transmission-là de la religion, elle passe en premier temps par la langue. C'est-à-dire qu'à travers la langue, il y a aussi un imaginaire. C'est-à-dire que les premières générations qui sont allées au Chouni ont appris la religion, mais ont plus appris la langue comorienne et appris la religion. Et on est vraiment dans une religion qui est plutôt une transmission d'une certaine spiritualité, de rites chaféiques, bien sûr, mais avec toutes nos codifications, avec des livres spécifiques. Il y a ce qu'on appelle le Bab, le Safina, et on arrive par Al-Minhaj Talibin, où on essaie de parfaire un parcours religieux. Donc en fait, on est dans ces années-là, dans les années 80, les mieux structurés en fait en formation religieuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, jusqu'à aujourd'hui, l'une des organisations les plus performantes en termes d'organisation à Marseille dans l'éducation religieuse. Et il y a dans la construction comorienne une imbrication, une totale imbrication entre la culture et la religion. Et chacune nourrit l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas, par exemple, faire le grand mariage si vous n'êtes pas musulman. C'est pas possible.
l'islam va codifier tout le champ social comorien. Et ça, c'est une spécificité. Et par exemple, moi, je me rappelle de mon père, lorsqu'il voyait, par exemple, des Sénégalais chrétiens, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas. Parce que dans son environnement qui était le sien, on est dans quatre îles qui sont totalement musulmanes. Pour nous, un noir chrétien, ça n'existait pas. Pour ma mère, ça n'existait pas. Donc, il faut voir aussi quelles sont les différences et qu'est-ce que la France, qui est un creuset, nous a appris aussi de nos différences. Moi, je me fais toujours penser, d'abord, alors peut-être ça va vous surprendre, mais je me suis toujours pensé d'abord arabe, et c'est mon expérience liée à la négrophobie en France qui m'a fait devenir fondamentalement africain. Et c'est vrai que là, on est dans des choses assez complexes, parce qu'il y a ce que l'on pense être et ce que l'on est vraiment. Et des fois, vous avez, dans cette expérience-là, des constructions assez complexes. Alors, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est un peu différent, parce qu'on est, on parle à la troisième ou à la quatrième génération. Le chauni n'a plus la même fonction. On est dans des chaunis qui transmettent en langue française. La langue comorienne petit à petit se perd, à mon grand regret. On est aussi dans un islam qui est, j'appelle ça l'islam mondialisé, c'est-à-dire qu'un islam qui est uniforme, qui se fie des particularités historiques et culturelles, en fait un islam saoudien qui nous est imposé et dont aujourd'hui on travaille avec. Et aujourd'hui c'est vrai que les chounis n'ont pas la même fonction et que nos jeunes, comme on dit à Marseille, s'arabisent, en fait, ou ils se maghrébinisent, on dit. Voilà, mais on est aujourd'hui dans des choses où la culture comorienne petit à petit perd pied face à un islam qui est uniformisé, qui vient d'Arabie Saoudite et qui n'a plus de lien avec notre islam des origines. Alors ce qui nous sauve en fait, c'est le recours à la tradition, parce qu'étant donné que on est quand même une société endogame, il faut pour se marier se reconnecter à la communauté comorienne. Et là, à travers le mariage, on a des parcours qui, des fois, sont salafisés ou pas, et qui, au moment du mariage, se reconnectent de manière religieuse et traditionnelle pour pouvoir se marier.
Merci.
Bon, pour l'instant.
Beaucoup d'éléments là aussi, bien sûr, qui ressortent et qui donneront lieu à des échanges sur ce point. Et au fond, sur cette question du coup de l'héritage, à présent, Bakary Sako, peut-être nous parler de votre expérience. Je vous en prie.
Bonjour, Bakary Sako, je suis originaire du 19e, j'ai 38 ans, je vais essayer, dans mon allocution très rapide, de vous faire parcourir un peu mon histoire dans le 19e sur 30 ans, 88-2018. Ma position en tant qu'Africain, en tant que jeune de quartier, et mon pratique religieuse. En fin des années 80, donc, toute mon éducation, comme tout enfant, dépend directement donc, de ma famille nucléaire, donc mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, ma belle-mère, ou mes belles-mères, pour mon cas. Et ma première éducation se passe entre donc, la maison et, hier, il y a eu une très belle discussion, même tout à l'heure encore, autour des foyers sur Socotra, dans les foyers. La semaine, vous êtes à la maison avec vos parents, père et mère, et vous recevez l'éducation soninké et l'éducation religieuse à la maison. Mais le samedi et dimanche, pour mille raisons, vous vous retrouvez au foyer. Vous vous retrouvez au foyer où, parce que vous avez cours d'arabe, très basique, babibou, donc moi j'ai dû apprendre à l'époque peut-être une trentaine de sourates. Je vais vous dire la vérité, je n'ai absolument rien retenu parce que c'était très mécanique. On a fait les ablutions de manière très mécanique, la prière de manière très mécanique, mais on est allé au foyer pour apprendre avec ceux qui étaient considérés comme des érudits à ce moment-là et qui avaient des notions en arabe. Mais vous pouvez y être aussi pour les baptêmes, pour les mariages, pour la socialisation, pour l'idée d'avoir un écran où on passe des films de karaté chinois, parce que le tonton va vous donner 3 ou 4 francs pour que vous puissiez acheter vos bonbons, manger le maïs, la fête de l'Aïd, où j'ai eu mon premier traumatisme de l'égorgement d'un mouton. Un matin très tôt, sous la pluie, mon père m'a obligé à tenir les pieds du mouton, il gigotait encore. Donc, véritable traumatisme pour moi à 9-10 ans. Mais tout ça dans une atmosphère avec des odeurs particulières, avec des bruits qui sont là, mais c'est l'éducation que l'on reçoit et on grandit dans ce contexte-là. Vous avez ce qu'on appelle chez nous les botous, ça veut dire que ce sont les réunions où il faut faire du palabre parce qu'il y a ou un conflit dans un couple, ou des discussions sur la construction d'une mosquée au pays. Bon, peu importe, les cotisations se font là, les disputes se font là, les rires et les larmes se font là, et aussi les condoléances, beaucoup les condoléances se font là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart de mes cousins qui vivaient en banlieue. On se retrouvait là tous les week-ends et mes cousins sont devenus mes copains parce que dans le foyer, on se rencontre, mais on fait aussi nos bêtises. Foyer Riquet, foyer Marseillais, foyer Drancy, les foyers en banlieue et tout cela. Et ensuite, la deuxième étape de l'éducation, elle se fait dans la rue. Donc, l'école et la rue. Et donc, vous avez d'autres types de copains qui ne sont pas vos cousins. Vous avez d'autres types d'adultes qui sont blancs, qui sont arabes. Et qui sont noirs, des Antillais, des Camerounais, qui ne sont pas la même confession religieuse, qui n'ont pas les mêmes pratiques culturelles que vous. Et là, sur la question religieuse, nos modèles d'identification et nos références sont les Maghrébins. Et les Maghrébins, Tunisiens, Marocains, Algériens, sont ceux sur lesquels on se réfère, même par rapport à la domination culturelle dans les quartiers, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, dans les fins des années 80, et donc ce sont nos références. Donc on parle de Zarma, on parle de, excusez-moi, mais de Zubé, on parle de ceci et de cela. Mais ça se fait là, ça se fait dans la rue, cette éducation se fait là. Et il y a un islam qui m'est venu, qui nous est venu à nous, jeunes Africains subsahariens, c'est cet islam très, ou peut-être ultra modéré, où d'un côté on entend les garçons nous dire le porc c'est haram, ça veut dire c'est presque un pilier de l'islam, de manger du cochon, ça te fait sortir de l'islam. Mais l'alcool, fumer des joints, aller au bois de Boulogne, consommer des travelots, ça, c'est haram, mais pas vraiment. C'est vraiment le cochon qui faisait sortir de l'islam. Et du côté des filles, il y avait la sacralisation de la virginité, et qui faisait que je peux, dans cette modernité, dans ce temps, avoir des pratiques amoureuses, excusez-moi encore pour le terme, mais qu'avec la sodomie. Mais attention, la virginité est un point extrêmement important parce que pour mon mari, pour le respect, pour ma famille, il faut que je sois vierge, arriver au mariage. Ça, c'est la question du quartier. Mais ce que ça a amené au final, tout doucement, c'est la rupture avec l'islam de nos parents et avec la culture de nos parents. Parce qu'on est baigné entre ce que l'on voit régulièrement dans la rue, ce qu'on entend, le kéfier palestinien, par exemple, j'ai découvert moi quand j'étais au collège, je ne savais pas ce que c'était la Palestine, je ne savais pas ce qui se passait là-bas, les histoires de sionisme, c'était des questions qui me dépassaient ou qui dépassaient mes potes et moi, originaires d'Afrique de l'Ouest, c'était vraiment des questions qui nous dépassaient. Mais on l'a découvert là, parce que ce sont des garçons qui, quand ils venaient à l'école, entendaient les discours politiques à la maison, surtout avec nos potes algériens, qui étaient des vrais militants de père en fils, de mère en fille. Il y a que chez eux que je voyais des drapeaux à la maison pendant le ramadan. Tu vas chez tes potes algériens, il y a un drapeau qui est suspendu là. Donc des vrais nationalistes, des vrais militants. Donc on découvre là, à ce moment-là, cette communauté, mais on va finir par rompre avec nos parents, avec notre culture, nos traditions, parce qu'on les trouve pas bling-bling en fait, en vérité. On les trouve dévalorisantes parce qu'à l'école, la maîtresse n'a pas peur de dire que la Bible, la Torah, considère le noir comme esclave, le commerce triangulaire. Donc mon histoire commence avec la rencontre avec ou les Arabes d'un côté ou les Blancs. Donc peut-être que mon arrière-grand-père était en train de manger des pommes sur un arbre tout nu. Et ils l'ont récupéré, ils l'ont fait venir en Occident et en Europe pour pouvoir travailler. Donc il y a cette image qui est véhiculée et donc on a nullement envie d'être fier d'être noir, nous le sommes de fait, parce que c'est une fatalité, on n'a pas le choix, mais de l'autre côté, on préfère faire abstraction de cette identité et se référer à d'autres cultures et d'autres paradigmes. Mais au fur et à mesure, en grandissant, vous avez 18, 19 ans, moi je fais partie des jeunes très virulents qu'on appelle les jeunes de cité, donc je ne m'en cache pas, mais je fais partie de ceux qui appartenaient à des groupes, des gangs, la question du trafic de drogue, donc très très actifs, pour ne pas dire même partie des leaders de ce type de mouvement. Et ce sont les réalités personnelles, individuelles, les parcours des choses qui vont vous atteindre directement, qui vont font vous remettre en question. Et c'est suite à la mort d'un très bon ami à moi, ami d'enfance avec qui j'avais grandi, suite à une mort, alors il n'est pas mort assassiné, mais une mort, l'autopsie dit naturelle, donc un genre d'arrêt cardiaque. Et là, il y a une remise en question pour ma part, avec la question de la spiritualité, de la raison d'être, de pourquoi est-ce que nous sommes, pourquoi est-ce que nous vivons. Je me rappelle d'une petite anecdote quand j'étais un peu plus jeune. Mon père, ma grand-mère, mes oncles disaient de certains comme moi et mes cousins qu'on était tellement des bandits, des voyous, qu'en fait nous étions possédés par des djinns, qu'on avait été ensorcelés. Alors on a été au Sénégal pour aller voir des marabouts, certains n'avaient pas de main, l'autre n'avait pas d'œil, mais des mecs qui jetaient de l'eau sur nous, qui faisaient du bruit et tout, et c'était pour essayer de sortir et extirper le mal qu'il y avait en nous. Mais ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est qu'à Dakar, moi ma famille est installée en Mauritanie, au village de Diaguili, ma mère est née à Grand Dakar et mon père à Saint-Louis. Mon grand-père du côté de ma mère est un tirailleur, qui était là en 1924 au port du Havre, libération de la France et l'entrée dans un nouveau conflit, donc dans une nouvelle guerre. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en Afrique, j'ai vu une autre façon de vivre l'islam. J'ai vu un islam que j'ai envie d'identifier, de situer comme un islam de profondeur, un islam de tolérance. Quelqu'un disait hier, pendant la conférence, christianisme, les chrétiens et les musulmans vivent en toute harmonie. À Dakar, vous avez des églises qui sont là, vous avez les mandjaks, vous avez dans la communauté même africaine noire, il n'y avait aucun choc de voir un noir chrétien, parce que ça faisait partie du paysage, et ce sont des gens même qui administraient le pays, donc il n'y avait pas d'étonnement. Et en même temps, vous avez des musulmans, des érudits, qui aussi administraient le pays. Donc ce sont devenus des références pour moi, et je suis devenu un pseudo-panafricaniste à partir de mes 21-22 ans, très radicalisé, avec l'idée que l'identité noire va être la seule et unique identité que nous allons avoir, et on va, comme Malcolm X le disait à un moment donné, faire la rupture entre le noir et le blanc. Pourquoi ? Parce qu'on le supporte. Alors quand je dis blanc, je mets les maghrébins aussi à l'intérieur. Et parce qu'il y avait ce ras-le-bol, la goutte d'eau avait débordé, fait déborder la mer, enfin le vase, sur ce concept de carlouche, de hell, de négro, de nègre, de négresse, qui nous avait complètement saoulés. Et on s'est dit, à partir de maintenant, le premier qui parle de nègre ou de carlouche, eh ben on le ramasse. Et c'est ce qu'on a fait pendant moins de 2 ans, du nettoyage. Donc, physique. Tu dis carlouche, tu dis négro, eh ben on te lave. Comme ça, tu vas voir que si jamais, socialement et économiquement, nous sommes faibles, physiquement, nous sommes les plus forts. Donc on a fait ce travail de nettoyage. Et j'habite, moi, dans le quartier. Et comme je vous parle, comme je parle avec vous là tout de suite, j'habite le quartier, donc rue de Tanger, la très très grande mosquée à Dawa, tristement célèbre avec l'affaire des Kouachi, avec l'affaire de Farid Ben Yetou. Ce retour à l'islam, cette volonté en tout cas pour moi de revenir à des valeurs spirituelles et d'essayer de rompre avec la rue, me font amener automatiquement, donc la mosquée qu'on fréquentait, mais que pendant le ramadan, pendant Tarawih, mais on faisait... Alors on venait déjà en retard pour la prière, et ensuite, à l'heure de Tarawih, on allait tout au fond de la mosquée, et on s'insultait nos mères, et toi, donc se charrie, mais pendant tout le Tarawih, c'était comme ça. Et sinon, quand on n'est pas dans la mosquée, on est dans la rue à faire du bruit, comme aujourd'hui on le voit partout pendant le mois du ramadan, malheureusement, notre jeunesse ne prend pas le plaisir et le temps de se reconnecter religieusement, donc passe leur temps à l'extérieur à faire du bruit, à déranger le voisinage. Mais nous l'avons fait aussi, donc j'ai du mal à les critiquer aujourd'hui. Et faut que j'arrête.
Justement, on poursuivra sur cette. Cette reconnexion qui concerne, dans le cas de Dura, Varoudi qui va nous parler justement cette reconnexion, déjà en tant qu'étudiant, et lorsque ben, vous êtes parti au Mali, pour un retour justement vers l'islam, lequel vous avez nous en parler.
Alors tout d'abord, merci à Juliette pour cette invitation. Alors, moi j'ai 23 ans aujourd'hui, je suis étudiant en sciences de l'éducation à Paris 8. Et en 2011, le 16 août 2007, à 16h50, je prenais mon vol pour aller effectivement au Mali. J'ai grandi en France, moi, et ma transmission, culturelle, s'est faite par mon père. C'est mon père qui m'enseignait quand j'étais petit, qui m'enseignait les samedis dimanches, le Coran, les sciences islamiques, etc. Et ensuite, il y avait une association de quartier qui enseignait les sciences islamiques, et c'est comme ça que j'ai appris. Et également, comme Bakary, de temps en temps, les samedis, ça m'arrivait d'aller au foyer. Et là-bas également, j'avais une certaine transmission culturelle, parce que en fait, c'était l'une des rares occasions que j'avais en fait, d'aller prier à la mosquée. Parce que là où je vivais, on n'avait pas encore de mosquée. Et c'est lorsque le samedi ou le dimanche, je me rendais dans ces foyers-là, que j'avais l'opportunité également de prier dans la mosquée. Donc en 2017, je voyage. Pendant 4 ans, je vais au Mali. Bon, je pensais que j'allais faire des vacances, mais ces vacances, ça durait 4 ans ou 2 mois. Et là-bas, j'étais dans un institut où j'ai appris les sciences islamiques et l'arabe. Et moi, j'ai pas, comme Bakary, j'ai jamais eu. Je suis parti très tôt, pardon, j'avais 11 ans, et du coup, j'ai pas été amené à avoir ce rapport avec, comme il le disait, les Arabes, les Carnouches, etc. Je l'ai pas connu. Du coup, j'ai fait ces 4 années là-bas, j'ai appris les sciences islamiques, 4 années très très enrichissantes de ma vie en réalité. Et sans ces 4 années, je ne serais pas devenu la personne modestement que je suis aujourd'hui. Et durant ces 4 années, j'ai appris pas mal de choses, comme j'ai dit dernièrement, en fait j'ai appris la vie. Parce que, par exemple, le premier soir, lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis lavé avec de l'eau froide. C'était inhabituel pour moi, je me suis lavé avec de l'eau froide dans une douche où il n'y avait pas de lumière. J'ai fait 3 minutes de douche et je suis. Et du coup, c'était marquant en fait. Ça m'a appris véritablement qu'est-ce qu'était la vie en réalité. Et à mon temps, c'est comme ça que mes parents m'ont transmis la spiritualité en fait. Ils la pratiquaient, ils n'étaient pas du style revendicatif, il faut que nous, musulmans, on se montre, qu'on s'habille d'une certaine façon, qu'on parle d'une certaine manière, mais c'est véritablement, en fait, eux-mêmes la vivaient, et surtout pour qu'on puisse, nous également, comprendre ce qu'ils veulent nous véhiculer, et qu'on soit toujours rattaché à nos origines, j'ai fait ce voyage-là, et heureusement j'ai fait ce voyage-là. Ensuite, je suis revenu en 2011, et là, dans notre ville où je vivais, là, il y avait une mosquée qui était implantée. J'ai commencé plus ou moins à enseigner la langue arabe là-bas, les sciences islamiques. Et c'est plus ou moins comme ça que mon engagement associatif a démarré. Je suis passé de l'enseignement à vouloir m'occuper un peu de tout ce qui était stationnement, comme il me disait, parce que pendant le ramadan, ça dérangeait. Et du coup, il fallait essayer d'y remédier. Et après, petit à petit, on s'attache à la mosquée, on commence plus ou moins à avoir certaines responsabilités au sein de la mosquée, qui est par exemple, de temps en temps, le fait de gérer certaines prières ou d'ouvrir la mosquée, etc. Ensuite, par le biais des études, on est amené à s'apercevoir qu'il y a des associations qui sont amenées à agir sur le terrain, et c'est des associations réellement qui nous parlent, en fait, parce qu'on va y trouver des personnes qui ont nos valeurs, qui sont les valeurs musulmanes, etc., où on se sentira pas jugé, où on peut se sentir tranquille. Et du coup, on est amené à s'investir au sein de ces associations-là. Et c'est ce qui m'a amené en fait à être président d'étudiants musulmans de France, la section parisienne, l'année dernière, où l'idée de cette association était de venir en aide à l'ensemble des étudiants par le prisme social, culturel et militantisme au sein de la fac. Donc voilà plus ou moins un peu mon expérience.
Merci. On voit bien justement, donc à travers vos différentes présentations, différentes expériences aussi, et différents rapports aux religieux. Du coup, Radia Boudou, moi j'aimerais quand même, parce que là d'emblée, vous avez évoqué cette question des discriminations. Au fond, j'ai plus le sentiment là d'un héritage de cette histoire. Mais quelle est la part du religieux dans cette histoire, s'il y en a une? Comment elle se traduit
Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un aspect religieux dans cette discrimination. Bon, c'est arrivé par la suite avec l'islamophobie où les noms et les prénoms suscitent maintenant effectivement une certaine différence au recrutement, à certaines choses. Et aussi même maintenant le faci, parce que le fait d'avoir son turban, même si c'est un turban africain et non pas du tout religieux, systématiquement on dit que c'est un foulard. Moi je sais que mes filles maintenant pour aller au boulot qui avaient l'habitude de mettre leur foulard africain parce qu'ils aiment ça, ils se trouvent brimés au niveau du boulot comme quoi non, vous ne devez pas porter votre turban. C'est pas utilisé comme turban mais foulard. Donc je dirais que c'est ces dernières années, avec cette histoire du terrorisme, du islamisme, machin, etc., tous les ismes qu'il y a, l'islamophobie donc, qu'on ressent ça. Mais moi, dans ma jeunesse ici en France, je ressentais pas ça. Et puis, même cette histoire de foulard, moi je vois les choses un peu leur progression depuis les années 70 où je me suis trouvée en France jusqu'à présent. Je me dis par exemple le foulard, dans les années 70 il n'y a personne qui parlait de foulard, personne ne mettait des foulards, que ce soit maghrébin, comorien, machin, personne ne portait ça. Et je pars au Comores comme j'ai dit avec mes enfants pendant 4 ans, je reviens et je retrouve tout le monde en mode foulard. Bon, moi j'ai essayé de m'expliquer que c'était la guerre du Golfe, machin, etc., qui a amené un peu les personnes à vouloir se marquer, se dire, bon oui, c'est vrai, je suis de telle confession, etc. Mais moi, c'est à ce moment-là que j'ai vu ça. Alors qu'avant ça, moi personnellement, je n'ai pas eu d'éducation culturelle, pas du tout, parce que même mes propres parents, même s'ils pratiquaient, ils faisaient la prière, ils faisaient le ramadan, ils faisaient les principaux trucs, mais ils n'avaient pas non plus de culture islamique, et moi-même j'en ai pas reçu. Et j'ai remarqué que mes petits frères par contre ont reçu. Pourquoi? Parce que là mon père a réalisé que moi j'en ai pas reçu et que les petits risquaient d'aller aussi dans, et a été parmi les personnes qui ont mis en place à Marseille les premières écoles coraniques avec un statut, une association, et créer, chercher un monsieur pour enseigner aux enfants les préceptes religieux à la Castellane. Et même louer un appartement pour en faire la mosquée et l'école en même temps. Donc j'ai hérité par contre de cet aspect-là. Moi aussi, une fois grande, je me suis trouvée dans le quartier du Plandao. Donc, j'ai fait la même chose que mon père. Créer une association, faire en sorte qu'il y ait une école et une salle de prière, comorien. Parce qu'il y avait un côté arabe au Plandao, mais il n'y avait pas une entente entre les Comoriens et les Maghrébins. Parce que les Comoriens se jugeaient avoir le savoir un peu plus carré et bien prononcé et bien prié que les Maghrébins. Donc ils se sont mis à part et donc on a créé ça. Et ça, ça a permis au Plandao, aux jeunes Comoriens, non seulement d'avoir une histoire religieuse, mais aussi de parfaire leur éducation en termes de scolarisation. On a amené les jeunes au Plandao à prendre en considération l'éducation. Et c'est comme ça qu'au Plandao, on a eu des bacheliers, on a eu des docteurs, etc. Dans un quartier qui était dit défavorisé, où on pensait que les gens qui étaient dans ce quartier étaient voués à l'échec. Et on a réussi à partir du Chioni, donc comme on dit, Et en plus, en donnant des cours, on a fait tout ce qu'il fallait en termes associatifs. En ce moment-là, on était plus jeunes. Donc, au niveau de ce quartier, ça a donné ça. Mais n'empêche que moi, personnellement, face à la drogue, machin, etc., j'ai dit, je ne peux pas élever mes enfants dans ce quartier. Et je n'avais pas d'autre solution, ni possibilité d'avoir un autre logement, ni quoi que ce soit ailleurs. J'étais obligée de partir au Comores, faire les 4 ans à mes enfants, faire les 4 ans à mes enfants au Comores. Mais ça leur a permis de revenir ici plus vigoureux et ils ont su affronter et ils l'affrontent jusqu'à maintenant. Maintenant, ils sont dans la lutte contre l'islamophobie, etc., dans des associations comme ça. Toutes mes filles sont des militantes en ce moment.
Donc il y a un héritage, en tout cas,
oui.
d'une mobilisation,
à partir des parents et des grands-parents.
Au-delà de la dimension seule religieuse.
La dimension sociale que vous évoquez, justement, ouais. se rencontre, se connecte, en particulier à Marseille.
Ouais.
Puisque là, au Canada, effectivement, hein, quand on parle aussi des quartiers nord, où cette dimension sociale très forte, hein, avec la drogue, l'échec scolaire, toutes ces préoccupations. Du coup, vous avez eu une expérience aussi de politique. Comment ça se traduit?
En fait, mon expérience politique, elle était due que dans les Bouches-du-Rhône ou en Provence, en PACA, Côte d'Azur, le seul élu noir qu'on avait, c'était un élu du Front National, qui s'appelait Jordan. Donc, une fois fini Sciences Po, je me suis posé certaines questions et je me suis dit que cette situation, elle n'était pas normale. Mais cette situation, elle était due en fait à un clientélisme ambiant qui donnait aux communautés comoriennes et maghrébines aussi des voix en échange d'une hypothétique mosquée. D'ailleurs, nous avons à Marseille la mosquée la plus grande de France, c'est la première pierre. On y est resté là. Donc, et c'est des promesses de mosquée en échange de voix. Et c'est vrai que j'aimerais quand même revenir, je parlerai du social, sur l'expérience d'être noir en islam. Parce que c'est important. C'est vrai que lorsqu'on est imam ou lorsqu'on a des fonctions religieuses, on ne connaît pas de discrimination. Vous allez dans une mosquée, vous savez lire, vous savez des choses, tu sais ou tu ne sais pas, tu prends des fonctions religieuses, tout le monde te respecte. Ça, c'est le point de départ. La langue faisant, on parle arabe comme eux, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand on parle mariage. Et là, à ce moment-là, la situation se crispe intensément, je veux dire. Et lorsque on vient et qu'on veut contracter des mariages, je me souviens de cette parole qui m'avait marqué à ce moment-là et qui dit « Ma fille ne se mariera jamais avec un esclave. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui a mené à ce père de famille à me voir, moi, pas comme un esclave, hein, parce que moi j'étais imam, peut-être dans son subconscient j'étais aussi un esclave devenu imam, mais voilà, il n'avait pas demandé la main de sa fille. Mais il y a eu des comportements qui ont crispé la situation. Et je pense que la question noire est une question pleine et entière en islam. Et on ne peut pas la traiter en parlant de Bilal, de Ammar, hein, ou de Soumaïa. Oui, mais c'était des Noirs. Oui, d'accord, ok. Mais la situation des Noirs en islam, elle n'est pas tolérable. Elle n'est pas acceptable. Et ça, c'est une réalité, il faut le dire. Alors nous, qui étaient Comoriens, qui avons... on peut jouer entre les deux. Oui, des fois on est Africain, des fois on est Arabe, des fois on est les deux, des fois on est nulle part aussi. Donc, ça nous facilite la vie. Mais l'expérience de nos frères Sénégalais, de nos frères Maliens, ben, ça nous parlait. Et on ne pouvait pas se désolidariser comme ça. Et c'est comme ça que l'on apprend à travers l'islam que cette fraternité n'est pas une fraternité pleine et entière.
Et je vais vous dire que la question de l'esclavage, par exemple, en islam, qui est une question qui n'est pas souvent abordée, elle l'est par des penseurs, moi, c'est une question qui a failli me sortir de l'islam. J'ai perdu la foi. J'ai arrêté la prière. Alors, pour un imam qui arrête la foi et qui perd la prière, c'est complexe, c'est difficile. Mais il faut l'accepter parce que, à un moment donné, quand on ne trouve pas les solutions, on ne vient pas dans l'islam pour jouer la comédie. Ou on y croit ou on n'y croit pas. Mais face à l'esclavage et face aussi à ma formation traditionnelle, c'était compliqué. D'un côté, j'étais délégué, je suis délégué du CRAN, donc je me bats contre la discrimination et contre la négrophobie. Et de l'autre côté, j'enseigne dans mes manuels de fiqh comment faire des esclaves. Il y a à ce moment-là une déchirure intellectuelle qui n'est pas supportable. Donc, on essaye après de trouver des réponses et petit à petit, j'ai retrouvé la foi parce que je me suis extirpé de cette vision traditionnaliste de l'islam et de ces lectures qui emprisonnaient ma conscience. Et je pense que l'une des raisons de ce racisme ambiant, c'est la question de l'esclavage, qui n'est pas réglée dans les pays du Maghreb et qui est véhiculée malheureusement dans les familles maghrébines ici en France. Le noir n'est pas un homme, il est plus proche de l'animal que de l'humain. C'est une réalité. Et malheureusement, ce fait-là est transmis de génération en génération. Alors à un moment donné, en tant que musulman, il faut trouver des solutions pour que nous et les Maghrébins, nous faisons cause commune. On ne peut pas aujourd'hui, à l'intérieur de l'islam, accepter un racisme ambiant et le dénoncer parce que l'autre il s'appelle Jean-Michel. Ah, c'est facile. Mais à l'intérieur de l'islam, c'est là où j'ai connu les plus gros racismes de ma vie. Quoi. Et ça, c'est une question qui est, comme tu le disais, frère, c'est une question qu'il faut régler parce que c'est une question qui posera et qui pose de nombreux problèmes.
Merci. Bakary, vous, c'est justement du point de vue de l'expérience de jeunesse dans des groupes, dans des bandes, dans la rue, et puis confronté finalement à une pluralité d'expériences. Vous dites à un moment donné, il a fallu justement faire du nettoyage. Mais donc ce retour à l'islam, comment ça se traduit concrètement? Et vis-à-vis des parents aussi, comment du coup vous situez? Parce qu'au fond, c'est bien la question de la transmission qui se pose et de l'héritage, s'il y a, hein, parce que comme tout héritage, on peut aussi le refuser. Donc, comment vous le renégociez? Comment...
On aurait pu laisser la parole à notre imam avant moi, parce qu'il prend mon scénario et il balance une chaîne.
Non, je l'inspire de temps.
On voit bien les connexions,
néanmoins. Je vais m'inspirer de temps. Mais en fait, non, c'est parce que c'est les mêmes analyses et on essaye d'être intellectuellement les plus honnêtes possibles et avec beaucoup de sagesse sur l'expression de ce sujet. Il m'arrive régulièrement, pour ne pas dire très souvent maintenant, d'intervenir sur ce sujet, sur les crispations qu'il peut y avoir au sein même de la communauté musulmane. Que vous ameniez les textes ou pas, les gens n'entendent plus. Les oreilles n'entendent pas, les yeux ne voient pas, mais surtout ce sont les cœurs qui sont complètement fermés. Aujourd'hui, vous pouvez parler de Bilal, vous pouvez parler de celui que notre prophète bien-aimé a surnommé le Houb Rasulillah, par exemple, définir et présenter la nourrice du prophète de l'islam, parler de Haddad, peu importe, vous allez parler de Sayyidina Moussa, vous allez mentionner, sortir, vous allez faire des pavés, je vais ramener tous les chers et les plus gros intellectuels. En fait, les cœurs sont tellement fermés que ça crée cette crispation. Et la question de la relation physique, elle s'est faite à une époque où on est jeune, j'ai 38 ans aujourd'hui, ça se passe quand je fais 10 kilos de plus, que je fais de la musculation, et que c'est facile pour nous d'aller dans la rue et de dire, ils sont des amis, jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, ce sont des familles que l'on connaît. Et il m'est interdit pour moi de dire quoi que ce soit de dur sur la communauté maghrébine, ne serait-ce parce qu'il y a une famille maghrébine qui est tout le temps chez moi, j'étais tout le temps chez eux. Donc je ne peux pas me permettre de généraliser ou de manquer de respect, ne serait-ce qu'à la seule famille fou algérienne avec qui nous avons grandi, parce que ce n'était pas leur paradigme. Et ce n'est pas comme ça qu'ils ont, eux, été éduqués, ce n'est pas comme ça que nous avons eu cette relation de fraternité et d'amitié. Maintenant, il y a quand même la réalité qui fait que, à la mosquée de la rue de Tanger, par exemple, avant sa fermeture, alors j'ai été celui, en 2011, qui a interpellé le maire du 19e en lui disant qu'il avait intérêt à soutenir les musulmans sur la reconstruction de la mosquée, parce que je pensais que c'est à cause de lui que la mosquée ne prenait pas forme, à cause des problèmes d'autorisation de construction. Et lorsque je l'ai interpellé de manière hyper virulente, on était une cinquantaine de personnes, avec des casquettes à l'envers, des lunettes noires, dans le gymnase, il a presque juré qu'il a donné 3 fois les autorisations, que ce n'était pas de son ressort, mais des dirigeants de la mosquée eux-mêmes. Lorsque je viens vers nos recteurs pour poser la question, non seulement il y avait des conflits immenses entre eux, financiers et tout, mais en plus, des problèmes ethniques, c'est-à-dire c'était la mosquée des Algériens, étaient exclus les Marocains, les Tunisiens, je ne parle même pas des Africains, mais les Tunisiens et les Marocains étaient exclus de la conception, de la co-construction du projet, un projet à 18 millions d'euros, avec des appartements pour les responsables de la mosquée et tout. Et quand j'ai compris ça de l'intérieur, j'ai dit, je vais mettre un gros coup de pied dans tout ça. J'ai appelé un ami du Parisien, et on a fait un article sur lequel j'ai bien mis ma photo devant le mur du bâtiment pour dire, c'est moi qui parle, avec des signes de gang, pour dire, c'est moi qui parle, et vous allez être obligés de faire quelque chose. Donc depuis lors, il y a eu des histoires qui se sont manifestées. La mosquée temporaire qui est située à la porte de la Villette, où il y a le Cheikh Barbi Keshat, fondateur de la mosquée de la rue de Tanger. Alors lui est rentré en conflit avec dans sa propre communauté, et il est aujourd'hui entouré de Comoriens, de Sénégalais, de Maliens, de Nigériens. Quasiment son équipe staff est rempli presque de 80-90% d'Africains et de Comoriens. Mohamed Bajrafil était encore à la mosquée de chez nous il y a 3 semaines, 1 mois, pour faire la khutba. Et un jour, il y a 2 ans, pendant le tarawih, vous avez un groupe de maghrébins qui disent, vous savez, c'est quand ils font la quête, avec des sacs, ils s'habillent là, pour construire la mosquée et tout. Et t'en as un qui s'est lâché ce jour-là, à mon avis, il a dû craquer au bout de 12 jours. Et il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas prié dans les foyers, là où il y a des gens comme vous? Sauf que j'étais derrière lui. J'ai tapé sur l'épaule comme ça. J'ai dit que... Là, ce qu'il raconte, là. Et ça a chauffé dans la mosquée. Et c'était important, je pense que c'est important d'établir cette discussion, parce que ça a un impact énorme sur les jeunes. Aujourd'hui, vous avez, sur les réseaux sociaux, des pages Facebook qui s'ouvrent. Vous avez des genres de prédicateurs, mi-musulmans, mi-Kaira, mi-Cotorep, MDPH, qui, pour attaquer les Africains, Comoriens, mais les Noirs en général, attaquent les filles maghrébines, en disant que ce sont des beurettes à peine, ça veut dire des suceuses de jeunes Noirs. Excusez-moi pour les termes, d'accord ? Mais c'est pour être brut et clair dans mon propos. Et pour attaquer les Noirs, on s'en prend aux filles. On dit toute fille qui humilie, qui fait honte à la communauté maghrébine, en sortant avec un Noir, on va la chasser, on va l'humilier, on va l'insulter. Donc je ne sais plus s'il y a l'islam ou pas l'islam à l'intérieur. Et au final, ça crée un véritable audimat. Il y en a un que j'ai découvert, qu'on m'a présenté il n'y a pas très longtemps. Il est de Lyon. Il n'a pas 22 ans, il a une quarantaine d'années. Il a des enfants apparemment, et il a une communauté qui le suit. Des gens qui sont d'accord avec son propos. J'ai vu une vidéo YouTube, quand vous regardez une vidéo, ça nous présente autre chose. J'ai vu une vidéo juste à côté, ma position, donc un jeune maghrébin, ma position ou mon avis sur le jeune, enfin, c'est un adulte, de Lyon. Et ce qui m'a choqué, plus que la position de soutien à ce prédicateur MDPH, c'était surtout que quand il a lancé la vidéo, il a fait l'invocation de prise de parole. Une invocation religieuse de prise de parole pour dire qu'il est d'accord avec ce que l'autre dit, qu'il ne faut pas... Alors il a dit, on veut négroiser les maghrébins. Donc il a utilisé un terme comme celui-là. Donc oui, aujourd'hui, le problème de l'héritage, de la transmission ne s'est pas faite à ce niveau-là. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais, que dans la communauté africaine, moi je suis un soninké, qu'il n'y a pas ces histoires de « il faut te marier avec un soninké de telle caste, de tel village, voire même avec la fille ou le fils de mon grand frère ou de ma grande sœur. » Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça. Mais les Africains ont été beaucoup plus timides sur la question de manifester ce sentiment-là vis-à-vis des autres. Mon père, qui était un radicaliste noir hier, aujourd'hui, il a deux de ses filles mariées à des Français blancs convertis. Mais avant que ce changement s'opère à l'intérieur de la maison et dans l'esprit de mon père, il a fallu tout déconstruire et reconstruire sur la base de l'islam et des textes coraniques. Ça a été très difficile, parce que la première fois qu'il a rencontré son futur gendre, ma soeur me dit, tiens, j'ai trouvé quelqu'un avec qui il m'a demandé en mariage. J'ai dit, bah, amène-le moi, je vais le voir, on va discuter avant d'aller voir le daron. Et elle me dit, quand je l'ai vu physiquement, je savais qu'elle allait avoir un problème. Quand elle a été voir mon père, j'ai dit, mon père, t'es obligé de le recevoir, parce que bon, c'est, religieusement, tu peux pas, et même culturellement, ça ne se fait pas. Et quand il arrive à la maison, donc Loïc, il arrive à la maison, ma mère est là, le thé, on discute, on fait la prière ensemble, après il part. Et mon père, il me dit à la fin, bon d'accord, c'est bien, mais tu te rends compte, elle m'a ramené un garçon rouge. Il est roux, en fait. En fait, il était même plus, il était choqué parce que c'était un rouge. C'était une question de blanc. Il a dit, tu te rends compte, elle a ramené un rouge. Non, c'est pas un blanc aux cheveux noirs, c'est un blanc avec des cheveux rouges et des sourcils rouges. Mais je pense que il est important, il est vraiment important. Moi je me définis aujourd'hui comme un afro-musulman et ça ne veut pas dire que je veux sortir une branche de l'islam, non pas du tout. Je suis musulman sur la base du Coran et de la Sunna. J'écoute tous les prédicateurs, je fréquente toutes les mosquées, j'aurais pas le temps de revenir sur mes aventures et mon passage chez les soufis, chez les tablirs, chez les salafistes et tout. J'ai même pas le temps de parler de ce que j'appelle aujourd'hui mes maîtres spirituels, ceux qui me recadrent, me remettre à ma place aujourd'hui, avec lesquels j'apprends de cœur à cœur. Mais il est important, je pense, qu'on ait ces dialogues-là, parce qu'on va avoir cette hypocrisie en nous, qui d'un côté de dénoncer la domination des Blancs de plus de 60 ans, de telle classe sociale, alors qu'en interne, chez nous, le travail n'a pas encore été fait.
Merci. Vous avez la parole sur cette question de l'héritage et de la transmission.
Moi, j'aimerais être un peu plus nuancé dans mon propos. Je pense que ça, moi, je ne fais pas partie de la génération. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, notre génération est en train de prendre un nouveau tournant et on ne s'intéresse plus du tout, à mon sens, véritablement, et c'est ce que je vis, et je le vois dans le monde associatif et même dans le monde des mosquées, et même au niveau des amis qui m'entourent, je ressens plus ce problème entre arabes et noirs. Personnellement, non pas que je suis aveugle et épanoui sur ce qui se passe, mais c'est plus du tout ce que je ressens. Et je le vois dans l'ensemble des structures associatives dans lesquelles j'ai été, et même au sein des mosquées. Du coup, moi, j'aimerais un peu plus nuancer le propos et dire que nous, notre nouvelle génération, j'ai l'impression que, étant donné qu'on ait fait l'école ensemble, même si vous également, vous l'avez fait ensemble, il y a moins ce rapport-là d'arabe à noir. Véritablement, en tout cas, du moins, c'est ce que je voulais apporter. Et du coup, on est dans une nouvelle perspective véritablement de co-construire ensemble et de vouloir en fait militer en fait pour nos droits simplement et de pouvoir vivre ensemble notre islamité en France. Moi, c'est comme ça plus ou moins que je le vois. Et dans le rapport en tout cas dans l'héritage de transmission, le souci plus ou moins, si je peux dire modestement, en tout cas des parents, c'est que qu'aujourd'hui, en tout cas, les enfants, je parle de mon expérience personnelle, ont une culture islamique et non pas forcément attachée à une certaine culture. Moi, par exemple, mes parents m'ont transmis l'islam, mais véritablement des textes. Peut-être c'était dû au fait que mon père était plus ou moins érudit et même l'imam de la mosquée. Mais en tout cas, c'est de cette expérience-là et même au sein du quartier duquel j'ai grandi, l'ensemble des parents, c'est véritablement ce qui a été leur philosophie de transmettre l'islam, mais l'islam des textes, et non pas l'islam
des Maghrébins ou des Africains. On le voit par l'association qui a créé la mosquée à Irani. Mes parents vivaient à Irani-sur-Oise, dans le 95, à côté de Cergy. Et l'association, au départ, c'est effectivement partie d'une association communautaire. C'était des papas africains qui se sont réunis, qui ont commencé tout simplement, en fait, d'abord qu'on ait une structure pour transmettre l'islam à nos enfants. Et c'est passé d'une association simplement de transmission religieuse à « on va établir une mosquée ». Et ce que le président de l'association a fait, en fait, il est parti taper à l'ensemble, à chaque porte de musulmans en fait, qu'il avait dans la ville pour lui dire bah, « viens, on va construire un projet de mosquée, etc. » Donc même dans la philosophie, on va dire, de nos anciens à Irani, c'est ce qui prédominait, c'est « on est différent, on va co-construire ensemble ». Et même aujourd'hui, on le voit toujours, à la tête de la mosquée, on a un président qui est algérien, et son bureau doit être composé de personnes qui viennent d'autres ethnies ou d'autres communautés. Afin qu'il n'y ait pas un certain une domination, on va dire, plutôt des Algériens que des Africains, etc. Et même on le voit dans l'imama, des personnes qui officient la prière du vendredi ou la prière quotidienne, c'est un imam maghrébin, et moi, quand je le disais à une certaine époque, j'étais imam également, et j'étais africain, et j'étais son second, et il n'y avait pas de rapport pourquoi tu étais noir, etc. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, parce que on m'a fait certaines remarques après certaines prières, je ne sais pas réciter. Mais avec la génération véritablement qui vient, ce qu'ils attendent, c'est la personne véritablement la plus compétente qui a les outils qu'on veut mettre en place. Peu importe en réalité sa couleur, son ethnie, etc. Et on le voit même dans l'instance de transmission à la mosquée, dans les cours, on voit toutes sortes de professeurs. On voit tant des Maghrébins que des Africains, que des convertis à l'islam. Mais je pense que, en tout cas je parle pour ma génération, c'est véritablement notre souci. Moi, véritablement, je ne m'intéresse plus à savoir tu es de quelle couleur ou quoi que ce soit, ou je veux fondamentalement construire avec les personnes qui sont de mon ethnie. Ou... En fait, nous, ce qu'on veut, c'est l'islam devant, c'est pas l'islam subsaharien ou l'islam que sais-je. Et surtout, moi, une de mes préoccupations, c'est je ne renie pas les discriminations qu'il y a autour, mais à force de me focaliser là-dessus, en fait, je n'atteindrai jamais mon objectif. Donc j'en fais fi, je fais comme s'ils n'existaient pas. Non, je ne fais pas comme s'ils n'existaient pas. En fait, je n'y prête pas attention en réalité. Moi, fut un moment, et je m'habille souvent, surtout en kamis, le grand vêtement qu'on porte. Et par exemple, j'ai jamais été arrêté par la police, j'ai jamais subi de regards discriminatoires ou autres. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, t'as vu, ils sont islamophobes, toujours ils me regardent, toujours ils m'arrêtent. Mais je lui dis, c'est parce que peut-être en fait tu fais attention à tous les regards qu'on te lance en réalité. Moi, je sais pas, quand on me regarde mal, je souris. Mais voilà, juste pour contrecarrer. Et ce qui fait qu'en fait, je vais pas me crisper, je vais pas faire attention à pourquoi il m'a regardé comme ça. Voilà, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je porte ma chachie. Non, en réalité. Et je pense que pour pouvoir dépasser tout cela, je dis pas qu'il ne faut pas prendre en considération les discriminations et ne pas les critiquer. Effectivement, faut les dénoncer. Mais à trop s'y attarder, en réalité, on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Voilà ce que je voulais.
Merci.